Bondy Blog Café.
www.bondyblogcentre.fr.
Une nouvelle affaire agite le campus de l'Université d'Orléans. Le 7 octobre 2019, Laïfa Boufendi, 67 ans, enseignant à Polytech et chercheur au laboratoire Grémy, apprend sa suspension par le président de l'université, Harry Bruant. Cette décision évoque une plainte pour harcèlement moral et sexuel qui aurait été portée par une ex-collaboratrice sans que l'intéressé puisse en savoir plus sur les faits qui lui sont reprochés, la date où ils auraient été commis ou encore sur l'identité de la plaignante. J'ai le plaisir d'accueillir André Bouchoul, retraité, anciennement professeur à l'Université d'Orléans, et il a été jusqu'en 1995 directeur de l'équipe du Grémy, groupe de recherche en énergétique des milieux ionisés plasma. Bonjour Monsieur Bouchoul.
Bonjour.
Alors, de quoi est précisément accusé M. Boufendi ?
Juste une petite correction, ou plutôt D'abord, vous dites l'équipe Grémy, en fait, c'est un laboratoire important, un des laboratoires importants de ce campus Orléans-CNRS, enfin universitaire CNRS. Mais indépendamment de ça, le 7 octobre, dans les considérants de la décision prise par le président de l'université, il s'agissait, je lis exactement, les agissements reprochés à l'intéressé sont susceptibles de constituer une infraction de droit commun et que sa présence au sein de l'université est susceptible d'occasionner un désordre manifeste dans le fonctionnement du service public et de porter atteinte à son rayon, à son image. c'était le 7 octobre et ça n'est qu'après, lorsqu'il y a eu une deuxième mesure de suspension, le 15 novembre.
Voilà.
Le 15 novembre.
Voilà.
Le 15 novembre. La première suspension était prononcée pour 3 mois. Et le 15 novembre, la nouvelle mesure de suspension a été signifiée à M. Boufendi pour 6 mois. La première fois, il s'était rendu tout seul à l'université. Ensuite, il est revenu dans son laboratoire où, sans ménagement aucun, il a été mis à la porte avec ordre de ne plus y mettre les pieds. Et la deuxième fois, lorsqu'il avait démissionné, où il était membre du conseil d'administration de l'université, il avait démissionné du conseil d'administration, Madame Leveleux l'avait remplacé, et la deuxième convocation, donc naturellement, nous l'avons accompagné, moi-même et Madame Leveleux, à cette convocation où on lui a remis, ou plutôt non, c'est pas cette convocation, j'étais tout seul avec lui. Et on lui a remis donc un papier, et là, avec son l'étonnement est devenu encore plus grand, et même le choc est devenu encore plus grand quand on lui a signifié cette fois une suspension pour 6 mois. Et c'est là que, dans les motifs de cette suspension, figure les mentions plainte pour harcèlement moral et sexuel. Et donc ça, c'est la deuxième, c'est au mois de novembre.
Et alors,
les deux fois, et je dois dire jusqu'à aujourd'hui, les deux fois, complètement abasourdi par cela, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? La première fois, au mois d'octobre, on lui a dit, vous n'avez pas à le savoir. Et il a évidemment dit, mais qui porte plainte et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, vous n'avez pas à le savoir. Autrement dit, jusqu'à maintenant, officiellement, Monsieur Boufendi, qui est professeur, enfin qui est connu, n'a pas connaissance de qui a porté plainte et pour quelles raisons précises. Autrement dit, pour quels agissements précis. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, Monsieur Boufendi, qui a dit que c'est pas possible, se trouve de toute façon dans l'impossibilité de présenter une quelconque défense en ne sachant pas de quoi on l'accuse. Et donc, ici, il y a un droit à la défense qui semble à beaucoup de monde non respecté. Mmh. Et en tout cas, une présomption d'innocence qui est évidemment non respectée aussi. Alors, je dois préciser peut-être à ce sujet et à propos de ces arrêtés de suspension, quand on regarde les textes, et même c'est bien connu nationalement par beaucoup d'exemples, qu'une plainte déposée et même une instruction menée par la police ou une instruction judiciaire n'entraîne pas automatiquement un arrêté de suspension par l'autorité administrative dont dépend le fonctionnaire. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement dans les textes. Autrement dit, cette mesure de suspension qui a été prise comme par M. Bruand, le président de l'université, à l'encontre de M. Bouffendi, est une mesure qui dépend de son libre arbitre, de son appréciation de la situation, et qui se traduit concrètement par le fait que c'est une considération, M. Bruand considérant M. Elhadi comme coupable. Et ceci est tout à fait curieux. Voilà.
Donc la suspicion de culpabilité semble prévaloir sur la présomption d'innocence.
Ah oui, la présomption d'innocence n'existe absolument pas. L'avocat de M. Bouffendi, pour l'instant, n'a aucune pièce de ce dossier. Et donc, elle s'en est inquiétée le 5 décembre en écrivant, demandant, par une lettre avocate, au président d'avoir communication du dossier administratif concernant son client, et avec notamment un procès verbal d'audition de son client dans le cadre de cette enquête administrative.
Oui.
Et jusque-là, M. Bouffendi n'a jamais eu l'occasion, et même il n'a encore toujours pas eu l'occasion de rencontrer le président, qu'il ne l'a jamais reçu. Et curieusement, le lendemain, M. Bouffendi reçoit de l'université une convocation pour une audition.
D'accord.
Sans que le président va répondre quoi que ce soit à l'avocat. Donc le lendemain, ça c'était pour le lundi, là, je crois qu'il a reçu ça le vendredi 6 décembre. Donc le lundi 9 décembre, il s'est rendu à cette convocation et nous l'avons accompagné avec Madame Leveleu et moi-même. Madame Leveleu qui l'avait remplacée au conseil d'administration de l'université. Et nous arrivons, il est attendu par le DGS, le directeur général des services, et puis le DRH, le directeur des ressources humaines, et qui nous disent « Non, nous voulons entendre M. Bouffendi seul. » Un peu désarçonné, voilà, c'est comme ça. Donc M. Bouffendi est entendu. À la fin de l'audition, il demande à voir un procès verbal et à signer un procès verbal. Et on lui dit non, c'est simplement une audition, il n'y a pas de procès verbal. Et ceci, je dois dire qu'après coup, ceci m'a beaucoup choqué.
On est en plein arbitraire.
C'est extrêmement choquant.
C'est très arbitraire.
Je trouve que c'est très choquant. Voilà. Mais une interrogation. À ce moment-là, les interrogations montent. Et les interrogations sont montées de façon importante dans le monde où M. Bouffendi est connu, tant en termes que personne humaine, qu'en termes de scientifique, au niveau international et au niveau national.
Notamment pour ses recherches, excusez-moi de vous interrompre,
Pour ces recherches-là, mais aussi... en tant qu'enseignant, c'est un des meilleurs enseignants de Polytech. Vous pouvez, de ce point de vue, prendre l'avis du directeur de Polytech, M. Christophe Léger, qui pourra vous confirmer cette chose-là. Et c'est quelqu'un qui est très aimé de ses étudiants. Donc, je suis très surpris que dans l'enquête qui a été faite et qui a amené le président à prendre ses mesures de suspension, il n'y ait pas eu, d'examen de ce qui se passait avec les étudiants et avec ses anciens doctorants, etc. Moi, j'ai reçu, pour bien préciser les choses, quand j'ai appris moi-même cette sanction qui frappait M. Bouffendi, je me suis inquiété auprès notamment de tous ces anciens thésardes et thésards, des gens qu'il avait encadrés en thèse. Et tous, sauf une, m'ont dit « pas de problème, c'était quelqu'un avec qui ça a été un vrai plaisir de travailler scientifiquement, quelqu'un qui était vraiment c'était un très bon directeur de thèse ». Sauf une qui m'a écrit que Elle avait eu, et ça c'était de notoriété publique, il y avait eu un clash entre cette étudiante et Bouffindi, de fortes personnalités tous les deux, il y avait eu un clash au moment de cette thèse-là. Et très curieusement, c'est la seule personne qui a été entendue dans le cadre de l'enquête administrative. Et j'en suis arrivé à me dire que les seules personnes entendues dans cette enquête administrative sont des personnes qui étaient susceptibles de faire des témoignages portant, vise certainement aidant M. Harry Bruand ou convaincant M. Harry Bruand de la caractère vraisemblable de l'accusation. Parce que pour prendre une telle mesure de suspension, si vous regardez les textes, il faut que celui qui décide de cette suspension juge du que cette plainte déposée auprès de l'université ou du Sénat ou de la justice est une plainte vraisemblable. Il faut qu'il juge de la vraisemblance. Mmh. Et à ce moment-là, c'est donc sur un faisceau d'informations qu'il peut juger cela. Et ce faisceau d'informations me semble singulièrement réduit dans le cas présent.
Est-ce que vous auriez plus d'éléments concernant donc cette personne qui a été auditionnée, qui avait un jugement défavorable à l'égard de M. Bouffindi ? D'une incompatibilité d'humeur ou alors de faits de harcèlement moral et sexuel ?
Non, absolument pas. Harcèlement moral et sexuel, harcèlement sexuel certainement pas. Mmh. Mais ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est réservé à... Je pense que c'est quelque chose qui doit être réservé à l'enquête,
bien sûr,
de police et au procès. Parce que ce que nous avons... j'ai été porteur de ça, mais j'ai été porteur simplement. Il y a eu une forte réaction au niveau national et même international de collègues qui étaient d'Allemagne, de Russie, des États-Unis, du Japon, de la Corée, etc., et qui m'ont écrit à ce sujet. Mais nationalement, beaucoup de collègues ont demandé à ce que la lumière soit faite sur cette affaire.
Bien sûr.
Ça s'est traduit par la supplique à Monsieur le procureur de la République à Orléans, c'est Monsieur Nicolas Besson, qui a été envoyé le 28 février. Supplie qui demandait d'une façon extrêmement simple que la justice établisse le plus vite possible la vérité sur toute cette affaire et qu'il fasse toute la lumière là-dessus. Cette supplique portait exactement sur ce point-là. Et M. Nicolas Besson, mais vous savez, c'était avant le confinement, avant le drame de cette pandémie. Mais Monsieur Nicolas Besson, à l'époque, nous avait répondu qu'évidemment, nous n'avions pas à connaître les éléments précis de ce dossier, parce que c'est vrai qu'on est des gens extérieurs, on n'est pas partie prenante de ça directement, mais qu'il allait diligenter au plus vite et faire en sorte que ça aille assez vite, quoi. Mmh. Bon, là-dessus, évidemment, il s'est passé, là-dessus est arrivé là. Quelque chose qui a ralenti tout du point de vue judiciaire. Voilà. Et donc, cette requête, elle a été appuyée très fortement au niveau national. Mmh. Et y compris, d'ailleurs, je note que là-dedans, vous trouvez, par exemple, 3 médailles d'argent du CNRS. Vous trouvez, d'ailleurs, aussi 3 médailles de bronze du CNRS. Vous trouvez des professeurs, des directeurs de laboratoire, etc. Mmh.
Je m'interroge sur le travail de son avocate. Est-elle empêchée ? Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas avoir accès à des pièces très importantes concernant les accusations de son client ?
Eh bien, je m'interroge moi aussi. Et je n'ai pas la réponse, qui est une réponse de nature administrative et juridique. Et je m'interroge. Là, la démarche que l'on peut avoir, nous, c'est une démarche donc de citoyens qui vise qu'il y ait une justice équitable qui gère et qui gère les problèmes qui arrivent aux gens, quoi. Et donc sur le plan des règlements administratifs et judiciaires, pour l'instant c'est Maître Saccaz qui s'occupe de ça, et Maître Saccaz n'a pas jusqu'à présent réussi à avoir le dossier qui concerne M. Bouffindi. Autrement dit, au jour d'aujourd'hui, nous avons eu d'abord une suspension pour 3 mois, ensuite une suspension pour 6 mois, et maintenant, arrivé le 11 mai, une nouvelle suspension pour 6 mois qui doit commencer le 15 mai. D'où la conférence de presse que nous avons tenue, parce qu'il est hors de question que ceci reste étouffé au niveau sans examen, sans défense, en niant toute possibilité, toute équité dans la justice telle qu'elle est menée jusqu'à maintenant.
Oui, bien sûr, parce que donc cette suspension a plusieurs effets sur la personne de M. Bouffindi.
Vous savez que c'est très difficile quand on est sous le coup d'une accusation pareille, sans pouvoir se défendre, tout en affirmant qu'on est innocent et que c'est calomnieux. Mais la calomnie, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne peut pas se défendre. Et ça a été très difficile, vous savez, personnellement, humainement. Et même ça a conduit son docteur à lui faire un arrêté maladie pour un mois pour le soigner.
Pour dépression, il me semble, c'est ça ?
Dépression, oui, dépression. Il avait besoin de médicaments pour tenir le coup, quoi.
Un préjudice physique et psychologique, un préjudice aussi.
Mais c'est surtout, vous savez, préjudice moral, ça c'est clair.
Oui.
On imagine bien que n'importe qui se trouve sous le coup d'une accusation comme ça, c'est très difficile. Mais en plus, je dirais que c'est encore plus difficile, et ça je peux l'expliquer peut-être pour le campus. C'est que vous avez quelqu'un là, M. Bouffindi, que je connais bien, qui consacre sa vie à son métier d'enseignant-chercheur, et d'un seul coup, on lui arrête tout. C'est-à-dire que non seulement il y a le préjudice moral d'être accusé de quelque chose qu'il récuse absolument et qu'il estime calomnieux, où il ne peut pas présenter une défense parce qu'il ne sait pas exactement de quoi on l'accuse d'une façon précise, mais en plus, toute la vie bascule dans la mesure où c'était quelqu'un qui était, du point de vue de l'enseignement, qui se consacrait à son enseignement d'une façon remarquable. D'ailleurs, je vois que c'est toujours dans les majors, dans les étudiants qui sortent les premiers de Polytech qui veulent faire une thèse avec lui. Donc ça, c'est très significatif. Et par ailleurs, son avocate a énormément de témoignages à tout point de vue, y compris de collègues, et y compris de collègues femmes de Polytech à Orléans, des enseignantes, et elle a beaucoup de témoignages de ses anciens élèves, beaucoup de témoignages d'amis sur la personnalité ou de gens qui le connaissent, mais jusqu'à présent, ce sont des éléments de dossier dont elle ne peut pas se servir puisqu'elle ne sait pas de quoi et qui et de quoi exactement il est accusé. C'est une situation très paradoxale.
Donc, qui pénalise M. Bouffindi, l'université, et tout le travail de recherche aussi donc, qu'il avait effectué, et notamment la transmission de celle-ci.
Je peux dire aussi que sur ce plan-là, donc là, c'est quelque chose d'un peu particulier. Bon, évidemment, on peut être un très bon chercheur et par ailleurs faire des choses qui sont parfaitement condamnables. Mais vous savez, on peut faire la comparaison, si on prend l'exemple de DSK, DSK, c'était un économiste très reconnu qui était susceptible d'être candidat à la présidence de la République. Et ce qui lui est arrivé à New York, a complètement démoli parce que l'homme était condamnable. Mais DSK ne s'est pas battu pour faire un procès et établir la vérité. C'est le cas actuel de M. Bouffindi. C'est très difficile.
Alors, puisque vous faites le parallèle pour M. DSK, il y avait eu une affaire de police, mais est-ce que, par exemple, M. Bouffindi a été convoqué par la police et...
Non, jusqu'à présent. Je vous le dis, jusqu'à présent, M. Bouffindi, suspendu par M. Bruand, ne sait pas qui, pourquoi exactement l'accuse de choses pareilles, et ni par l'université, ni par la police, ni par personne. C'est une situation invraisemblable.
Oui, kafkaïenne, hein, comme on dirait.
Kafkaïenne, si vous voulez.
Pour les amateurs de l'auteur. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui pour M. Bouffendi? Comment va-t-il?
C'est un peu difficile, vous savez. C'est un peu difficile, mais comment dire, après des mois où il se débattait en ayant l'impression d'être enfermé dans une cage sans savoir pourquoi et dont il ne se voyait pas comment sortir. Je crois que maintenant, cette affaire éclate au grand jour. Et cette affaire éclatant au grand jour, j'espère que assez rapidement, il y aura quelque chose qui sera, que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Et la seule façon de le faire, c'est un procès. Le pire des choses, si j'ose dire, ce serait qu'il y ait un non-lieu, quoi. Parce que un non-lieu pour M. Bouffendi laisserait penser que oui, il est sans doute et peut-être coupable. Mais lui, ce qu'il demande, c'est un procès qui dise oui, je suis coupable, non, je ne suis pas coupable. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a un autre aspect, mais là, c'est plus professionnel et ce n'est pas directement lié à l'accusation. C'est que du coup, il a évidemment l'interdiction totale de mettre les pieds à l'université, l'interdiction de toucher à son laboratoire, dont on l'a mis à la porte d'ailleurs sans ménagement. Mais il était engagé sur une recherche extrêmement intéressante, enfin à mon sens, je pensais même pas que ça pouvait exister, quelque chose qu'il développait avec un collègue de l'école polytechnique à Palaiseau, et où il y avait besoin d'une collaboration. Et en particulier, cette collaboration impliquait des expériences qui se faisaient dans son laboratoire à Orléans. Mais tout est fermé. Autrement dit, il était sur une phase de recherche qui était un peu enthousiasmante, et d'un seul coup, c'est la douche froide, et tout s'est arrêté. Et donc, ça renforce un peu la peine qu'il peut avoir de se retrouver dans cette situation, quoi.
Quelles sont les prochaines échéances concernant le dépôt de plainte, une convocation judiciaire?
Les prochaines échéances ne dépendent que maintenant de la justice. Et ça, je ne peux pas, moi. On a simplement essayé d'attirer l'attention de Monsieur le procureur sur ce dossier. Je vous dis, beaucoup de gens qui étaient co-signataires de cette supplique que j'ai adressée à monsieur le procureur. Et donc là, je dirais que l'affaire est entre les mains de la justice. Donc monsieur Bouffendi, tout ce qu'il peut espérer, c'est que ça aille le plus vite possible. Mais bon, c'est le rythme de la justice. Là, on ne peut rien. Comment dire que, on peut pas dire, faut le faire demain ou n'importe, je sais pas. Par contre, quelque chose qui peut se faire et qui aurait sans doute dû être fait dès le départ, c'est que M. Bouffendi devrait pouvoir porter plainte pour dénonciation calomnieuse.
Oui.
Pour l'instant, il ne peut porter plainte que contre X, puisqu'aujourd'hui, il ne connaît pas officiellement le nom de la personne qui l'accuse. On est quand même à 7 mois depuis la première suspension. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, s'il porte plainte, c'est contre X. Mais moi, à titre personnel, mais là, c'est pas moi, c'est moi qui dis ça. Je pense qu'il pourrait même porter plainte contre l'Université d'Orléans. Parce que ces mesures, qui ne sont pas des mesures qui sont laissées au libre arbitre de l'université, indépendamment d'une poursuite judiciaire. Eh bien, ces mesures-là qui pénalisent, qui le désignent comme coupable de fait, sont des mesures qui bloquent tout, son enseignement, sa recherche. D'ailleurs, pour les étudiants de Polytech, c'est les priver d'un enseignant de grande qualité. Et ça, je ne sais pas si M. Christophe Léger lui-même était vraiment au courant de cette suspension de ce professeur de son établissement. J'en sais rien. En tout état de cause, il serait, à mon avis, il serait autorisé à faire une telle démarche. Mais je ne peux pas me mettre à sa place, il faut que vous l'interrogiez.
Alors, je m'y connais mal en droit, mais est-ce bien légal de suspendre au-delà de 4 mois un professeur? Il me semble que la limite est fixée à 4 mois, sauf erreur de ma part.
C'est tout à fait. Oui, c'est tout à fait ce que j'ai lu. C'est tout à fait ce que j'ai lu dans le texte, dans les textes juridiques. C'est une loi qui remonte à juillet 83, mais qui a été où il y a eu des attendus de la direction de la justice relevant du Premier ministre, où j'ai vu effectivement que normalement c'est limité à 4 mois ces mesures de suspension. Mais je dois dire que j'ai vu dans d'autres textes que ces mesures de suspension en tout état de cause ne peuvent excéder 1 an. Donc là, je dirais que là, c'est du ressort d'un pénaliste, mais comme du droit administratif.
Oui, d'un juriste. Est-ce que l'université ne se trompe pas en souhaitant justement ne pas porter atteinte, que ne soit pas que une atteinte à comment ça s'appelle au rayonnement de l'université ne soit pas fait de par cette mise en cause judiciaire de l'un de ses professeurs? Et est-ce que le retentissement médiatique qui a lieu en cours en ce moment ne produit pas l'effet inverse justement?
Ah oui, non, mais tout à fait. Je pense que au niveau international, les réactions que j'ai reçues de beaucoup de collègues, comme je vous disais, bon, parce que c'est pas le seul, bien sûr, mais c'est un des personnes qui fait que le nom d'Orléans évoque quelque chose dans un certain nombre de pays dans le système universitaire. Et c'est une des personnes qui contribue d'une façon évidente à ça. Et ça a semé beaucoup d'émoi. Et donc là, contrairement à ce que est dit dans le texte, d'ailleurs, des arrêtés, les attendus, porter atteinte à son image, eh bien, je crois que c'est l'université elle-même qui porte atteinte à son image en prenant de telles mesures.
Savez-vous si M. Bouffendi serait prêt à réintégrer ses fonctions à l'issue d'un dénouement heureux de cette affaire ?
Écoutez, je pense qu'il ne reviendra pas dans ce laboratoire. Je le pense d'une façon extrêmement simple parce que je ne m'explique pas autrement le fait qu'un président d'université juge et donc prend position, un juge absolument vraisemblable, une plainte de cette gravité, sans que les éléments internes de ce laboratoire le confortent dans cette idée. Et je pense que, j'espère que l'enquête qui est en cours, je suppose l'enquête qui est en cours normalement, c'est-à-dire je crois que M. Nicolas Besson l'a confirmé à un des journalistes, je pense que l'enquête en cours devra être une enquête équitable et entendre un certain nombre de gens qui n'ont pas été entendus jusqu'à maintenant, et qui donne un son de cloche entièrement différent sur la personnalité et les qualités de ce monsieur Bouffendi.
Très bien. Bon, affaire à suivre. Qui devrait normalement donc prendre fin à mi-novembre, puisque c'est la date de la première suspension.
Normalement, si vous voulez, j'espère bien que les choses vont avancer, puisqu'il est évident que si un procès déclare que monsieur Bouffendi est innocent, à ce moment-là, l'université est évidemment tenue d'arrêter sa suspension.
Oui, bien sûr.
Puisque sa suspension le déclare coupable.
Votre regard sur la situation, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des articles concernant un climat de suspicion, de méfiance à l'université. Vous avez certainement lu dans La République du Centre.
Oui, bien sûr, mais là, je ne peux pas vous répondre, parce que vous savez, moi, j'ai 82 ans. Oui. J'ai été longtemps aux affaires, j'ai été longtemps donc directeur de ce laboratoire, membre du CA. À l'époque, si vous m'aviez interrogé il y a 20 ans, je vous aurais répondu. Mais là, ce qui se passe à l'université maintenant, dans ce niveau-là, je n'en suis pas. Moi, je sais ce qui se passe pour M. Bouffendi, Mais pour ce qui se passe sur l'université en général, non, je ne sais pas trop. Je peux pas vraiment vous répondre.
Vous n'avez pas l'impression que la situation se serait dégradée si vous compariez à votre époque, il y avait
Ah, mais là, quand je regarde ce qui s'est passé dans ce cas précis, je peux dire que pour moi, je n'ai jamais, de toute ma carrière, vu une telle situation. Jamais. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que il y a quelques années, dans le même laboratoire, il y a quelqu'un qui s'est plaint de harcèlement auprès d'un président. Et c'est une plainte qui s'est plainte auprès d'un président. Et c'était assez dur pour que cette personne soit amenée à voir un psychiatre qui immédiatement l'a arrêté pour un mois en disant non, non, il faut arrêter, sinon ça va, c'est trop grave. Eh bien, il n'y a eu aucune suite. Aucune suite n'a été donnée à cette affaire. Et là, curieusement, là, bon, je ne m'explique pas que cette chose-là ait pu arriver. Moi, je ne me souviens pas, moi, personnellement, qu'il y ait. Et je pense que c'est exceptionnel, peut-être même au niveau national.
Très bien. Merci, Monsieur Bouchoul, pour toutes
je
ces informations.
Prie.
Bondi Blog Café.
www.bondibloccentre.fr.